Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Sunwoo Assurance qui vous propose Priorité Santé. Sunwoo Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Diaran Diaye.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé. Au lendemain de la 15e journée mondiale du psoriasis qui a eu lieu le 29 octobre, nous faisons le point sur cette maladie inflammatoire de la peau. Une pathologie qui touche plus de 2 millions de personnes en France et 125 millions de personnes dans le monde. Le psoriasis est une maladie chronique de la peau qui touche autant les hommes que les femmes. Il se manifeste par l'apparition de plaques rouges recouvertes de pellicules blanchâtres. Cette pathologie entraîne des démangeaisons parfois douloureuses. Mais grâce à des avancées technologiques de ces dernières années, on sait contrôler les poussées, mais pas encore guérir totalement la maladie. Bien qu'il ne soit pas contagieux, les malades sont isolés. Le psoriasis peut être douloureux, handicapant, stigmatisant et avoir un impact social et psychologique sur la vie des malades. Maladie de peau fréquente, le psoriasis est une pathologie multifactorielle. Cause, symptômes, traitement, on vous explique tout grâce aux éclaircissements de Bénédicte Charles, écoutante et adjointe de France Psoriasis. Bonjour.
Bonjour.
Et le professeur Hervé Bachelès, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et aussi dans notre studio. Bonjour.
Bonjour.
Et nous serons en ligne avec le professeur Fatima Tali, dermatologue et vénérologue sénégalaise, maître de conférences agrégé à l'université Cheikh Diop de Dakar, médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis ainsi que sur le groupe Psoriasis Ouest-Africain. Elle est également auteure de Dermatologie moderne et médecine alternative, soigner le Ndorhoum City au Sénégal, publié en 2016 chez L'Harmattan. Et en fin d'émission, nous échangerons avec la spécialiste de la maternité, Karima Peroni, auteure de « Mon allaitement comme je le veux, pression, idée reçue, vivre son allaitement tout simplement » chez Le Duc Édition. N'hésitez pas à nous appeler, le numéro de Priorité Santé 33 1 80 82 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Bénédicte Charles, personne ne parle aussi bien d'une maladie que les patients eux-mêmes. Vous êtes atteinte de cette maladie. Vous vivez avec ce psoriasis depuis des années. Qu'est-ce que le psoriasis ?
Alors, le psoriasis, c'est donc une maladie qui a des manifestations cutanées. C'est une maladie inflammatoire, mais qui a également des manifestations rhumatismales. Et c'est mon cas.
Et au quotidien, du coup, comment
alors,
ça se manifeste ?
Au quotidien, eh ben, jusqu'au traitement, jusqu'à ce qu'on me propose un traitement, c'est vraiment une maladie très dure à vivre. Les gens comprennent pas. Alors, dans le psoriasis cutané, il y a plein de préjugés, comme quoi on est sale, c'est un déficit d'hygiène, ou comme quoi on est déstressé, voilà. Je pense que si c'était qu'une maladie du stress, en Île-de-France, tout le monde aurait du psoriasis. On pense qu'on est contagieux, alors que pas du tout. J'ai encore, moi qui fais de l'écoute, donc je vais parler surtout des autres, donc j'ai eu des milliers de personnes, on me dit « j'ai attrapé du psoriasis ». Mais non, ça ne s'attrape pas.
Ça ne s'attrape pas, effectivement. Alors on va revenir en détail, bien sûr, sur votre parcours et sur cette maladie. Juste avant, professeur Bachelès, il y a plusieurs formes de psoriasis. Quelle est la plus courante ?
Alors la plus courante, c'est ce qu'on appelle le psoriasis en plaques. On a appelé ça longtemps, encore maintenant, psoriasis vulgaris. Ça veut pas dire, vulgaire, il faut rappeler que en latin c'est commun. C'est donc la traduction de la fréquence de la maladie. À peu près 4 à 5% de la population a cette maladie. Et ce qu'on peut dire effectivement, c'est que cette forme-là représente environ 80 à 90% des cas de psoriasis.
Et il y a un âge moyen où se déclenche la maladie ?
Alors la grande enfin, on peut dire la majorité des cas se déclarent avant l'âge de 40 ans, donc on va dire chez le jeune, que ce soit l'adulte, mais aussi dans une proportion non négligeable chez l'enfant. La population de moins de 16 ans représente une population qui est très touchée, qui est l'objet d'un intérêt maintenant heureusement tout particulier, parce que on peut aisément imaginer l'impact stigmatisant dont parlait Madame Charles, également extrêmement marqué dans l'enfance et l'adolescence.
Et ce n'est pas simple hein, à diagnostiquer cette maladie, ça peut parfois être confondu avec de l'eczéma, des irritations. Comment savoir si on est atteint de cette maladie? Quels sont les signes cliniques?
Alors je dirais qu'il y a deux situations différentes. Le cas général chez l'adulte, c'est tout de même que celui d'un diagnostic qui est aisé cliniquement par un dermatologue qui est entraîné. Il est rare qu'on ait recours à des examens complémentaires tels que la biopsie de la peau pour différencier d'un eczéma ou d'une autre maladie dermatologique, même si ça arrive, c'est l'exception, pas la règle. Chez l'enfant, c'est un petit peu différent, parce que là, le diagnostic peut être effectivement plus malaisé, on en reparlera peut-être au moment des questions des auditeurs, mais c'est effectivement dans cette tranche d'âge où le diagnostic peut poser problème.
En parlant d'auditeurs, on a Jean Rostand qui nous a publié un message Facebook. Il demande quelle analyse devons-nous effectuer au labo pour diagnostiquer cette maladie? Est-ce que c'est nécessaire d'abord?
Alors, la réponse est simple. Pour le diagnostic, aucun test, surtout aucun test sanguin, n'est nécessaire ni suffisant. C'est vraiment l'œil exercé d'un médecin ou d'un dermatologue habitué à cette pathologie qui permet de faire d'établir le diagnostic le plus souvent, encore une fois, sans problème au premier coup d'œil.
C'est important de rappeler hein, que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, on vient à l'instant de le dire avec Madame Charles, et que ce n'est pas du tout dû à un manque d'hygiène, il faut le dire, mais il y a un terrain génétique familial. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là, professeur Bachelet?
Oui, alors il y a une hérédité qui, comme beaucoup d'autres maladies inflammatoires, est une hérédité, enfin, une génétique qui est complexe. C'est pas une maladie qu'on transmet de manière automatique de génération en génération. C'est ce qu'on appelle des maladies multigéniques. On peut résumer les choses en disant que lorsque un des deux parents est atteint, on a un risque d'environ 15%, en tant qu'enfant, d'avoir un psoriasis, donc trois fois supérieur à celui de la population générale. Et quand les deux parents sont atteints, on passe à 50%. Et quand on a affaire à deux jumeaux identiques, eh bien, il y a simplement 80% de concordance. Donc, quand l'un a du psoriasis, bah, l'autre a 80% de chance d'avoir du psoriasis, mais 20% de chance de ne pas en avoir. Donc, on voit bien qu'il y a, certes, il y a le poids de la génétique, mais il y a des facteurs d'environnement dont parlait effectivement Madame Charles et qui ont un rôle important à jouer. Tout n'est pas fixé dans le marbre par l'hérédité.
Et sait-on s'il y a des régions dans le monde qui sont plus touchées que d'autres de cette maladie? J'ai parlé tout à l'heure de 125 millions de personnes.
Oui, alors c'est vrai que globalement, il y a ce qu'on appelle un gradient nord-sud avec des fréquences hein, qui de la maladie, ce qu'on appelle la prévalence, qui est donc la maladie est plus fréquente dans les pays du nord, particulièrement les pics de prévalence sont les plus élevés sont observés en Scandinavie jusqu'à 7 à 8%, et on peut dire que en Asie et en Afrique subsaharienne la maladie est moins fréquente. Pour autant, il existe des formes sévères voire très sévères de la maladie, et nos collègues africains et asiatiques sont particulièrement experts dans le diagnostic et la prise en charge de ces maladies, pour lesquelles les moyens sont malheureusement parfois différents de ceux de pays très développés.
Et on connaît les causes de la maladie?
Alors, les causes de la maladie, c'est une interaction entre ce terrain de prédisposition génétique et puis de facteurs d'environnement. Alors, les facteurs d'environnement, au sens large, il y a une dimension écologique, notamment au stress et l'absence de stress. Mais comme le disent très bien les patients, ils disent moi, je suis stressé, mais j'ai du psoriasis, mais à côté de moi, j'ai une personne qui est stressée et qui n'a pas de psoriasis. Donc on voit bien que oui, il y a des facteurs d'environnement, les stress neuropsychiques, absolument, et puis également certains facteurs infectieux, notamment des infections bactériennes, des infections virales, qui jouent sûrement un rôle et peut-être ont un rôle à jouer dans ce fameux gradient nord-sud dont on parlait tout à l'heure.
Bénédicte Charles, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes, vous, atteinte par cette maladie. Racontez-nous vos débuts avec la maladie. Comment vous avez été diagnostiquée?
J'ai été diagnostiquée, alors mon psoriasis cutané qui a été très léger par mon médecin généraliste. Il était tellement léger qu'une bonne crème hydratante a suffi à le faire disparaître. Par contre, le rhumatisme a été beaucoup plus long et mon médecin généraliste qui me suivait savait que j'avais un psoriasis cutané et n'a pas fait le lien avec les douleurs que je pouvais avoir. Et ça, c'est très important, parce que les patients ne le savent pas. Et notre maladie s'exprime aussi d'une manière rhumatismale. Et pour avoir un bon diagnostic, la moyenne est maintenant de 5 ans. Il y a quelques années, c'était 7 ans et demi.
C'est long.
Moi, je vous dis pas. Moi, c'est 45 ans, donc.
Et du coup, qui vous a diagnostiqué
C'est un rhumatologue. Et c'est grâce à l'association France Psoriasis que j'ai su qu'il y avait un lien entre la peau et les articulations.
Et vivre avec ce psoriasis, c'est au quotidien et c'est donc à vie. Il y a des moments plus ou moins intenses d'apparition des squames?
Oui, tout à fait. On peut pas vraiment savoir. C'est un peu un cercle vicieux parce que j'ai remarqué, enfin moi personnellement, en étant fatiguée, ça apparaissait plus. C'est quand même une maladie qui fatigue. Donc, comme on est fatigué, on en a plus. Comme on en a plus, on est fatigué. Et il faut trouver le bon traitement qui va rompre ce cercle infernal.
Alors, on sait que psoriasis, ça vient de psora, du grec, et ça veut dire se gratter. Est-ce que la maladie se manifeste justement avec cette façon intense de se gratter?
Pas chez tout le monde. Mais jusque je sais pas quand, on disait aux étudiants que la différence entre l'eczéma et le psoriasis, c'est que le psoriasis ne démangeait pas. Mais il y a des gens qui sont en sang, et peut-être que le professeur Bachelet,
effectivement.
Oui, alors c'est effectivement, quand on voit les traités, mais de dermatologie, pas encore très anciens, c'est exactement ce que dit Madame Charles. Parfois, on dit que la maladie, le psoriasis, ne gratte pas, entre guillemets. Et en fait, les études ont montré que dans 7 cas sur 10, il y a bel et bien des démangeaisons, et dans les formes étendues de la maladie, sur une échelle de 10 cm, vous savez, des échelles visuelles qu'on utilise pour quantifier les démangeaisons, eh ben on est à une moyenne de 7 sur 10, qui vous donne à peu près une image de l'intensité des démangeaisons, et qui peuvent être gêner le sommeil et être particulièrement gênante et impacter négativement la qualité de vie des patients au quotidien.
Absolument, le psoriasis a un fort retentissement sur la qualité de la vie. J'ai lu donc que 7 personnes atteintes de psoriasis sur 10 considèrent leur maladie comme gênante dans leur vie professionnelle. Est-ce que c'est votre cas, Madame Charles?
Moi, j'ai eu de la chance, ça n'a jamais été mon cas. Mais j'ai des témoignages où c'est vraiment le cas. Et puis, j'ai remarqué que des gens qui ont un métier de contact, par exemple des commerçants ou des esthéticiennes ou des infirmières, le psoriasis va être une forme palmoplantaire, c'est-à-dire la paume des mains, et donc là tout le monde le voit. Certains ont un psoriasis que sur le corps, donc il y a des gens qui peuvent cacher leur psoriasis à leur entourage, donc oui, ça peut être stigmatisant quand ça se voit, et puis c'est extrêmement douloureux. Et là, on parlait du grattage quand ça nous démange, quand c'est en pleine journée et qu'on est avec des gens, faut prendre sur soi, et ça aussi c'est difficile.
Hein, ce regard des gens. On a près de 77% des patients atteints de cette pathologie qui déclarent une altercation de leur qualité de vie. Bénédicte, pouvez-vous nous commenter ce chiffre, 77% des personnes atteintes?
Oui, c'est énorme. Je crois qu'un des premiers facteurs, c'est le sentiment de solitude. Les gens ont l'impression qu'ils sont seuls à avoir cette maladie. On est quand même 2,5 millions en France. C'est un des rôles de l'association de dire aux gens qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a des personnes pour les écouter et les comprendre, parce qu'entre pairs, on se comprend bien.
Vous êtes écoutante à France Psoriasis. Cette image de souffrance, elle colle à la peau des personnes atteintes. On vient d'en parler. Vous luttez contre quel type de stigmate persistant?
Alors, sur la contagion. C'est pas contagieux, sur le manque d'hygiène, parce que
c'est pas du tout dû à un manque d'hygiène.
C'est pas du tout lié à un manque d'hygiène, sur l'isolement. Surtout, on est là pour lutter contre l'isolement des gens.
Alors, il existe des solutions, c'était d'ailleurs la thématique de la journée internationale du psoriasis hier. Alors, les solutions dont on parle, vous nous parliez tout à l'heure d'une hydratation quotidienne de votre peau.
Oui, alors ça c'est très important. C'est nous, à l'association, nous ne sommes pas médecins, donc jamais nous ne préconisons de traitement et nous portons un jugement sur l'ordonnance d'un médecin, mais on peut donner des conseils sur la vie quotidienne, dont bien s'hydrater, et puis conseiller aux gens d'aller voir un dermatologue, parce que la plupart, quand ils ont des dermocorticoïdes et qu'ils ont un pseudo très étendu, certains peuvent passer une demi-heure à se mettre de la pommade le matin et le soir, et sur le long terme, c'est pas possible. Donc il y a d'autres solutions, donc on leur conseille d'aller voir des dermatologues qui, eux, ont un arsenal thérapeutique
Et on y reviendra spécifiquement avec le docteur, avec le professeur Bachelèze. À 10h25 à Paris, vous écoutez RFI. Priorité santé parle aujourd'hui du psoriasis, une inflammation chronique de la peau, et on va tout de suite prendre en ligne les auditeurs. Nous allons prendre justement en ligne Stéphanie. Bonjour.
Bonjour Vera.
Vous nous appelez de la région parisienne, on est à votre écoute.
Donc je suis la maman d'Élie qui a 5 ans et demi et elle est atteinte de psoriasis. Oui. Donc il y a eu un diagnostic posé au mois de juillet. Ça a commencé à l'âge de 3 ans et demi. Ça a commencé par les paupières et ça s'est étendu sur les jambes. Aujourd'hui, ça touche l'aine, les parties génitales, sous les aisselles, dans le dos. Enfin, c'est ça. La maladie a vraiment évolué. Mm-hmm. Aujourd'hui, je sais même plus comment la soulager. Donc, c'est des soins. Enfin, c'est de l'hydratation, essentiellement, parce qu'elle a eu de la cortisone et rien n'y fait. Et c'est très, très dur pour elle. Donc, c'est la nuit des cris, elle m'appelle, et c'est pas facile. Voilà.
Alors, on sent un petit peu la détresse de Stéphanie, c'est quand même très dur. Alors, on a parlé de la souffrance des adultes, on n'en parle même pas pour les enfants. Professeur Bachelèze, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Stéphanie ?
Bah, ce qu'on peut dire à Stéphanie, c'est que il existe des, même si elles font moins l'objet d'autorisation de mise sur le marché officielle avec des critères de remboursement, il existe quand même des solutions thérapeutiques chez l'enfant autres que les corticoïdes par voie locale qui ont leurs limites et qui ont aussi leurs effets indésirables quand ils sont utilisés de manière chronique. Donc à partir d'un certain niveau en termes d'étendue du psoriasis chez l'enfant et d'intensité des symptômes, on voit bien que ce qu'on observe chez l'adulte, eh bien, l'enfant souffre sans doute encore plus, il a du mal à intégrer évidemment et à maîtriser ses symptômes. Il existe des solutions, des dermatologues pédiatres, mais aussi des dermatologues tout court qui ont justement l'habitude de prendre en charge des formes de psoriasis sévères, à impact sévère, parce que là on voit bien que l'impact est important. Eh bien, il existe d'autres solutions, notamment des traitements par voie générale lorsqu'ils sont nécessaires et pour lesquels il ne faut pas hésiter à avoir recours chez l'enfant comme chez l'adulte. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui est accentué chez l'enfant, car une des problématiques du psoriasis, surtout des formes étendues ou disons un peu diffuses, c'est moins le retard au diagnostic, encore que dans ce cas, il y a bel et bien un retard au diagnostic. Ça illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème diagnostique chez l'enfant, c'est là qu'il existe en priorité. Mais il y a aussi un retard à la prise en charge thérapeutique adéquate. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment partagé chez l'enfant comme chez l'adulte.
Et quand Stéphanie nous parlait de cortisone qui ne fonctionne pas, c'est courant ?
Alors il faut différencier deux situations. La cortisone, donc sous forme de crème, de pommade ou de gel, ça a une certaine efficacité sur le court terme. Et puis l'effet, est-ce qu'il s'épuise réellement ? Ça peut arriver. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est le cas chez l'adulte, c'est aussi sans doute le cas chez l'enfant, c'est que on court après un train qui continue à avancer, la maladie s'étend et on peut pas mettre de la crème ou une pommade ou un gel sur l'ensemble des lésions quand elles couvrent
tout le corps.
Donc ça pose le problème de l'adéquation du traitement adéquat. Il faut dire les dermocorticoïdes font partie de l'arsenal thérapeutique, ils doivent être utilisés chez l'enfant sur de courtes séquences thérapeutiques parce que ils ont des risques d'induire des vergetures, une atrophie de la peau et d'autres effets indésirables. Il ne faut pas en avoir peur non plus, avoir une corticophobie, mais ils doivent être utilisés dans leurs limites, c'est-à-dire pour les formes de psoriasis qui sont relativement limitées en ce qui concerne la surface.
Et Stéphanie nous a aussi parlé d'hydratation, c'est ce qu'elle fait actuellement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre ?
Bah, encore une fois, c'est difficile de se prononcer sans voir l'enfant, mais encore une fois, le problème qui semble se poser là, c'est que différentes zones, on va dire, du corps sont atteintes, et donc c'est difficile de les maîtriser avec le seul traitement par voie locale. Et peut-être qu'à un moment, il faut se poser la question avec un dermatologue ou un dermatologue pédiatre entraîné à la prise en charge du psoriasis, à avoir recours à un traitement par voie générale. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser des traitements qui vont moduler l'immunité dans le bon sens chez des enfants, même s'il faut prendre certaines précautions. Et il y a maintenant des traitements, même des nouveaux traitements qui ont été développés, dont l'âge, en ce qui concerne l'autorisation de mise sur le marché et le critère de remboursement, ça descend, excusez-moi l'expression, jusqu'à 4 ans. Donc on voit bien qu'il y a la prise en compte de la sévérité de la maladie chez l'enfant qui est de plus en plus prégnante. Et ça, c'est une bonne chose.
Stéphanie, est-ce que vous avez d'autres questions à poser au professeur Bachelès ?
Non, merci. Merci, vous avez été très claire.
Merci beaucoup pour votre témoignage et surtout bon courage. On va juste laisser réagir également Bénédicte Charles qui veut vous adresser un message.
Oui, devant la difficulté des enfants, à l'association, nous avons écrit un conte qui s'appelle Théo et les psorianautes, qui est vraiment adapté aux enfants. Vous pouvez nous appeler à l'association cet après-midi, vous pouvez m'appeler, vous demander Bénédicte et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer.
Vous avez entendu Stéphanie ?
Merci, oui,
merci infiniment et surtout bon courage à vous et votre petite fille.
Merci,
merci pour votre appel. Merci infiniment. On va prendre en ligne Rodrigue qui nous appelle de Pointe-Noire. Rodrigue, bonjour.
Bonjour.
Rodrigue, vous nous appelez de Pointe-Noire au Congo. Bonjour. Vous avez la parole.
Oui, je vous écoute.
Ah non, nous vous écoutons. On vous écoute, vous avez une question à poser, on vous écoute.
Oui. Moi, ma question est celle-là. Est-ce que vraiment il n'y a pas un traitement curatif ?
Professeur Bachelès, Rodrigue, aimerait savoir, est-ce que c'est une maladie chronique ? Est-ce qu'il y a un traitement curatif finalement ?
Alors c'est souvent une question qui est posée lors de la première consultation. Hein, et la réponse, c'est non, il n'y a pas à ce jour de traitement curatif au sens où on n'est pas dans une situation d'une maladie aiguë comme une pneumonie, une infection aiguë pour lesquelles il y a un traitement court qui va permettre justement d'être curatif. Là, on a une maladie chronique, comme l'a dit Madame Charles, qui peut durer parfois toute la vie. Le message important, c'est pas parce qu'on n'a pas à notre disposition des traitements curatifs que nous ne disposons pas de traitements efficaces, voire même maintenant très efficaces. Et donc, il faut de plus en plus dédramatiser cette maladie. Il faut vraiment insister sur le message d'un diagnostic et d'une prise en charge adéquate la plus précoce possible, mais qu'il existe des solutions thérapeutiques adaptées à chaque forme de psoriasis et à chaque patient, parce qu'on ne traite pas un psoriasis, on traite, il faut le rappeler, des malades atteints de psoriasis et il faut prendre en compte tous les facteurs, y compris les facteurs humains.
Merci Rodrigue, vous avez entendu les conseils du professeur Bachelès ?
Oui, oui, j'ai bien entendu.
Merci pour votre appel.
Priorité santé sur RFI.
À Direction à présent le Sénégal. Nous sommes en ligne avec le professeur Fatima Tali, dermatologue et vénérologue sénégalaise, maître de conférences agrégée à l'université Cheikh Diop de Dakar, médecin-chef du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, coordinatrice nationale du réseau international sur le psoriasis ainsi que le groupe psoriasis ouest-africain. Le professeur Fatima Tali est également auteur de Dermatologie moderne et médecine alternative, soigner le Ndorhom City au Sénégal, publié en 2016 chez L'Harmattan. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors, le terme Ndorhom City dont on parle désigne pratiquement toutes les affections dermatologiques au Sénégal, c'est en Wolof. Là aussi, beaucoup de personnes sont touchées. Quelles sont les plus courantes?
Alors, les plus courantes, c'est les dermatoses chroniques, à savoir l'eczéma, le psoriasis, bien sûr, et le lichen plant. Toutes les dermatoses inflammatoires rentrent dans ce concept de Ndorhom City au Sénégal. Et donc, c'est l'appellation qui est désignée.
Qui désigne beaucoup de maladies autour de cette peau.
La plupart, oui, des maladies.
Et les populations sénégalaises sont conscientes de ces maladies? Connaissent-elles ces maladies?
Elles connaissent ces maladies, mais simplement, comme je vous disais, c'est l'appellation alors, de la pathologie cutanée qui est désigné par le terme de Ndorhom City. Mm-hmm. Mais bien sûr, à l'intérieur de ce grand groupe de Ndorhom City, mm-hmm. il y a toutes les dermatoses inflammatoires, infectieuses, qu'elles soient tumorales. Donc, la maladie est bien connue.
Et comment sont perçues ces maladies de la peau, notamment le psoriasis?
Alors, le psoriasis est perçu comme une maladie à composante héréditaire. La plupart des patients qui viennent nous consulter disent que j'ai peut-être c'est une maladie que mes parents ou mes grands-parents ont présentée, mm-hmm. ce qui explique qu'actuellement j'ai le psoriasis. Donc il y a cette composante héréditaire qui revient tout le temps, mm-hmm. et moins la composante contagieuse. Donc la plupart des patients pensent qu'il s'agit d'une maladie héréditaire.
Donc la population est plutôt au courant de cette maladie?
Pas la majorité, mm-hmm. mais en tout cas, quand les patients viennent consulter et qu'on leur explique bien cette pathologie, mm-hmm. Ils comprennent, mais généralement, ils ne viennent pas avec le diagnostic de psoriasis ou bien ils ne comprennent pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mm-hmm. ils viennent pour le diagnostic et la prise en charge d'un Ndorhom City qui, bien sûr, a déjà été pris en charge par les praticiens, mm-hmm. dans la plupart des cas. Presque 90% des patients qui viennent nous voir ont déjà vu les praticiens pour soigner cette maladie.
Professeur,
et une fois à l'hôpital,
mm-hmm.
oui.
Non, allez-y, je vous en prie.
On leur explique qu'il s'agit du psoriasis.
Professeur Fatima Tali, sur les peaux blanches, on parle d'apparition de plaques rouges recouvertes de pellicules blanchâtres. Sur les peaux noires, comment on décèle le psoriasis?
Alors, c'est une nuance qui est importante à souligner parce que le psoriasis n'a pas la même présentation sur peau noire que sur peau blanche. Mm-hmm. Sur peau noire, l'érythème est moins visible. Sur peau noire, les squames sont moins épaisses. Et il y a beaucoup de troubles dyschromiques, c'est-à-dire des variations de la peau dans le sens soit d'une diminution de la pigmentation ou au contraire, une augmentation de la pigmentation. Donc, il y a plusieurs problèmes de dyschromie en dehors de... Et le prurite dont on parlait tout à l'heure également mm-hmm. est assez fréquent. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que le prurite était plus fréquent chez les patients qui avaient déjà utilisé un traitement à base de plantes traditionnelles avant de venir en consultation.
Justement, au Sénégal, la médecine traditionnelle, elle est répandue pour plusieurs maladies, dont le Ndorhom City. Parfois, ça aggrave et ça entraîne des poussées. Est-ce que c'est le cas pour le Ndorhom City, professeur Fatima Tali?
Pour le psoriasis, parfaitement. La plupart des patients que nous recevons en hospitalisation viennent dans un tableau d'érythrodermie. L'érythrodermie, c'est-à-dire une généralisation de la pathologie cutanée, qui atteint plus de 90% de la peau. Et ces patients, quand on les interroge, on retrouve la plupart du temps une prise par voie orale de médicaments traditionnels, à base de racines, à base de feuilles, à base de poudre ou bien à base d'écorce. Donc, c'est une, là également, c'est une donnée assez courante mm-hmm. que les psoriasis se révèlent sous un mode érythrodermique dans leur forme grave.
Du coup, comme ils commencent à se soigner avec cette médecine traditionnelle, lorsqu'ils viennent vous consulter au cabinet, à quel niveau se trouve la maladie? Allô? Professeur Fatima Tali, vous nous entendez? Bon, peut-être que on va prendre un auditeur en attendant de récupérer la ligne avec le professeur Fatima Attali. On a Aimé en ligne. Aimé, bonjour.
Bonjour, madame.
Aimé, vous avez la parole, on vous écoute.
Oui, comme je le disais, je salue tout le monde. Bon, ma maladie a commencé depuis 2017. Et après ça, je suis parti au CHU de Trècheville. On m'a fait faire une biopsie et les résultats ont révélé que j'avais le psoriasis. Donc le docteur m'avait prescrit des médicaments et puis il avait fabriqué aussi une potion, pas une pommade, pour que je puisse mettre sur le corps. Et les années qui ont suivi, 2008-2010, au jour d'aujourd'hui, ça avait disparu. Mais depuis 5 mois, j'ai constaté que les pommades que j'appliquais n'ont plus de fait sur les taches. Mm-hmm. Moi, j'ai voulu participer à l'émission pour savoir est-ce que je peux avoir d'autres remèdes pour pouvoir pallier les taches.
Professeur Bachelès, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aimé qui se soigne, mais finalement, les plaques continuent de grossir?
Alors, il faut insister sur le fait que, par exemple, les pommades à base de cortisone, qui sont encore une fois un traitement, ce qu'on appelle de première ligne, qui a montré son efficacité, sont efficaces sur la rougeur, sur l'épaisseur, sur les squames, doivent être utilisées, encore une fois, dans les formes qui ont une étendue qui reste limité et surtout qui n'empêche pas de laisser certaines traces. On dit que le psoriasis ne laisse pas de cicatrices, c'est vrai et c'est faux. Il y a parfois des séquelles inesthétiques, notamment sur les peaux plus pigmentées, soit plus claires, soit plus foncées, et les traitements ne sont pas efficaces sur ces séquelles. C'est le premier point. Sur l'inflammation elle-même, il arrive effectivement que les traitements locaux comme les à base de cortisone perdent leur efficacité de manière réelle. Et dans ces cas-là, soit il y a des alternatives thérapeutiques, comme elles existent plutôt dans les pays, on va dire les pays riches, il faut bien le dire, y compris des traitements locaux qui sont de plus en plus efficaces. Soit on peut avoir recours quand il y a des lésions qui sont un peu diffuses, par exemple à la puvathérapie. Au rayon ultraviolet en cabine de dermatologue, lorsque c'est possible, lorsqu'on n'est pas très éloigné et on sait le problème de la distance dans certaines zones rurales en France, alors a fortiori effectivement en Afrique. Et puis il y a certains traitements par voie générale qui sont disponibles en Afrique, comme le méthotrexate par exemple, qui est un des traitements possibles des formes plus diffuses. Donc il faut insister sur le fait que les traitements locaux doivent être continuer à être utilisés selon une certaine rythmicité pour éviter que les plaques reviennent ou s'étendent, et que lorsque elles perdent leur efficacité, il faut avoir recours au traitement dont je viens de parler.
C'est intéressant ce que vous dites, professeur Bachelès, parce que il y a un tiers des patients qui ne prendraient pas correctement justement le traitement.
Oui, alors ce qui est frappant, ce fameux 30% ou 33%, enfin c'est selon, mais c'est quelque chose qui est partagé dans toutes les maladies inflammatoires chroniques quasiment. À chaque fois qu'il y a des études qui sont ce qu'on appelle, qui mesurent l'observance ou l'adhérence au traitement tel qu'il est prescrit par les médecins, qu'on ait un rhumatisme psoriasique, qu'on ait un psoriasis, qu'on ait une polyarthrite rhumatoïde ou une maladie intestinale inflammatoire chronique, eh bien il y a à peu près 30% des malades pour diverses raisons qui ne vont pas adhérer à ce traitement-là. Il y a à la fois un manque, je pense, de temps dédié à l'éducation, à l'information. C'est pas le seul facteur. Il faut commencer par une écoute des patients. Il faut insister sur le fait que lorsqu'on exerce une consultation de dermatologie, c'est vrai pour le psoriasis et d'autres maladies chroniques, il faut commencer par écouter les malades.
Merci pour votre appel, Aimé, et puis bon courage à vous.
RFI à Dakar, 92 FM.
Le professeur Fatima Attali est de nouveau en ligne avec nous. Vous nous entendez, professeur ?
Oui, je vous entends.
Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu de la médecine traditionnelle qui est fréquemment utilisée au Sénégal pour soigner ces dromcytites, dont le psoriasis. Comment vous luttez contre cela ?
comment lutter. Alors là, ça va être très difficile de lutter. Le endocarditis est l'une des pathologies pour lesquelles la médecine traditionnelle est utilisée, mais globalement pour toutes les pathologies. Hein, le premier recours thérapeutique en Afrique, que ce soit pour la dermatologie ou d'autres pathologies, c'est la médecine traditionnelle. Lutter contre, non, c'est plutôt voir comment intégrer cette médecine, qu'elle soit encadrée, parce que de toutes les façons, les patients auront toujours comme premier recours. Et sur ce plan-là, signalons que récemment, il y a le premier congrès international sur l'ethnopharmacologie. Et donc, peut-être que des solutions pourront être trouvées dans quelques jours que tiendra à Dakar. Si vous permettez, je voulais juste rebondir sur notre collègue tout à l'heure qui disait que la psychothérapie était intéressante dans toutes les pathologies chroniques. Alors nous avons fait l'expérience avec l'initiation des focus groups, c'est-à-dire qu'on réunissait les patients atteints de psoriasis avec un psychologue et des dermatologues, et on s'est rendu compte que cette stratégie permettait non seulement d'améliorer l'observance, mais que les patients se sentaient moins isolés et que ça contribuait à obtenir de meilleurs résultats sur le plan thérapeutique. Donc, il ne faut surtout pas négliger cette composante psychothérapie. Et nous avons eu vraiment l'expérience très probante à Dakar dans le cadre de la consultation thématique, où c'était une approche pluridisciplinaire avec des dermatos, des rhumatos, mais également des psychologues.
Très intéressant. Donc, professeur Fatima Tali, pour conclure, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs autour de ce Dorhum City et particulièrement le psoriasis?
Alors, particulièrement le psoriasis, insister sur le fait que le psoriasis, certes, c'est une maladie de la peau et des articulations, mais que de plus en plus des comorbidités sont rapportées, notamment ce qu'on appelle le syndrome métabolique, avec la possibilité d'une hypertension artérielle, d'un diabète, d'une obésité, et que la prise en charge doit être globale, doit être inclusive. Notons également que pour le cas particulier de nos pays, l'infection à VIH est également une comorbidité assez fréquente, puisque parfois retrouvée jusqu'à 11% des formes graves de psoriasis. L'infection à VIH doit être prise. Et pour la prise en charge thérapeutique, par voie générale, le méthotrexate reste une molécule très, très utilisée avec un rapport coût-efficacité qui est très, très bon. Donc, il faut également, pour la prise en charge par méthotrexate, veiller à éliminer les comorbidités telles que l'hépatite virale B ou bien l'infection à VIH avant de mettre les patients sous méthotrexate. Dans tous les cas, la prise en charge hospitalière est recommandée. Donc, nous conseillons aux patients de venir consulter en dermatologie devant des lésions suspectes de psoriasis pour pouvoir éliminer ou retenir cette pathologie et avoir une prise en charge appropriée.
Merci beaucoup, professeur Fatima Tali. Alain nous appelle en direct de Yaoundé, au Cameroun. Alain, bonjour.
Bonjour. Moi, c'est Alain. Je suis atteint du psoriasis, ça fait 27-28 ans. Et j'ai aujourd'hui des plaques avancées où c'était insupportable. Et je manque franchement même de mots parce que le quotidien m'est très difficile et sur le plan professionnel, ça ne donne pas quand il fait chaud, je suis obligé de me rendre chez moi, je me cache et tout. Invivable même à la maison, mes deux gosses avec qui je vis, en fait, parce qu'à un moment donné, il est difficile sans plus supporter l'état là, où tu as l'impression comme si, ils ont l'impression comme si peut-être c'est à la limite, parce que c'est pas une maladie qu'on connaît trop ici, comme si c'est de la lèpre et tout, bon. Tu as mal le regard des autres, tout ça. Tu as mal en point, quoi. Et comme j'ai une certaine formation, je crois, ça m'a aidé à élever mon moral afin que je puisse faire face, pour ne pas plonger, aller à me pousser à bout, franchement, invivable. Et on ne supporte plus, on n'a plus confiance même aux médecins parce que tu ne vois pas de suite et tout. Et tu perds vraiment le nord, comme on dit ça, tu perds parfois même la raison. Ouais.
Ah, Bénédicte, Charles, on vient d'entendre le témoignage émouvant et on sent cette difficulté, on l'entend à travers le téléphone. Cette maladie, c'est vraiment, vraiment, vraiment psychologiquement difficile. Que peut-on conseiller, cela dit, à Alain?
C'est difficile comme ça en quelques secondes de lui donner des conseils. Déjà,
et de remonter le moral en tout cas.
Voilà. Alors il se sent isolé, mais il faut savoir qu'il est pas seul. Qu'on est des millions comme lui. Et alors notre peau, bon, c'est très complexe. La peau, c'est notre barrière entre nous et l'extérieur, mais c'est aussi la première image qu'on donne de nous. Mais on n'est pas que notre peau. Donc peut-être que ce qu'il est au fond de lui, ces qualités qu'il a, ces qualités humaines, il les a, même si l'aspect qu'il donne peut faire peur à certaines personnes qui sont pas informées ou qui sont sûrement pas très gentilles au fond, hein, et que même s'il avait pas de psoriasis, peut-être qu'elle serait pas très gentille. Donc il n'est pas tout seul, et ce qu'il est au fond de lui, il l'est toujours malgré le psoriasis, et il faut qu'il puisse sa force et sa confiance dans ce qu'il est au fond de lui, derrière sa peau.
Vous avez entendu, Alain, ne perdez pas espoir.
Oh oui, je sais, oui. J'ai essayé toujours de relever mon moral. C'est-à-dire que sur ce côté-là, quand je regarde les enfants, j'essaye, je dis, ils n'ont pas demandé naître, bon, il faut que je me lève, que j'essaie de me battre. Puis qu'ils savent que je peux, que je dois avoir même ne serait-ce qu'un peu, me donne leur travail, et puis bon, je me fais comme je peux. Mais le regard vraiment des autres, ça tue. Moi, j'appelle ça tue.
Oui.
Ça,
oui.
Ça te pousse à bout, le regard des autres. Mm. Parce qu'il faut vraiment être fort.
Oui, mais vous êtes fort. Mais vous pourriez peut-être demander à votre médecin s'il connaît d'autres patients qui sont comme vous, et vous pourriez vous rencontrer et échanger entre vous. Et le groupe a toujours une force qui soutient. Et ça, c'est important.
Ok. Je vais bien. Je vais essayer de lui en parler.
Voilà.
Merci beaucoup, hein. Merci infiniment pour ce témoignage, Alain, et surtout bon courage à vous au Cameroun. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, Bénédicte Charles et professeur Bachelet. Je vais vous laisser le micro pour donner les mots de la fin, Bénédicte Charles.
Alors, les mots de la fin. Alors, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. En France, il y a l'association France Psoriasis, qui est joignable tous les jours de 9h à 18h au 01 42 39 02 55. Nous avons un site où vous trouverez plein d'informations, franceobsoriasis.org, que vous pouvez consulter de partout dans le monde. Voilà. Et d'être unis tous ensemble, nous tous les malades, c'est une force.
Merci infiniment, Bénédicte Charles, pour toutes ces précisions autour de cette maladie. Professeur Hervé Bachelet, que faut-il retenir, que faut-il dire à tous nos auditeurs autour de ce psoriasis?
Je crois qu'il faut commencer par dire que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. La peau d'un malade atteint de psoriasis, elle est plus propre que la peau d'un sujet qui n'est pas atteint de la maladie. C'est quelque chose qu'on oublie, mais la science va dans ce sens-là. C'est une maladie pour laquelle il y a un impact très, très, très stigmatisant. Et puis, il y a ces fameuses comorbidités. Il y a cette atteinte articulaire dont a parlé Madame Charles, qui menace de détruire les articulations. Donc, il faut une prise en charge qui est précoce, qui est adaptée, qui est multidisciplinaire quand il le faut. Et le message clé, c'est que maintenant, on dispose vraiment d'un arsenal thérapeutique, à la fois les traitements conventionnels qu'on connaît, qui existent depuis longtemps, mais dont on connaît maintenant de mieux en mieux l'efficacité. On a parlé tout à l'heure du méthotrexate, qui est encore sous-utilisé même dans les pays développés, alors qu'il a un bon rapport justement bénéfice-tolérance. Et puis, il y a des nouveaux traitements, des traitements biologiques, malheureusement qui sont disponibles pour l'instant uniquement dans les pays développés, aux économies développées, et dont on espère que l'arrivée de biosimilaires, de copies qui sont de très bonne qualité, mais moins coûteuses, vont permettre justement aux pays émergents d'accéder à ces thérapeutiques qui, encore une fois, sont très efficaces.
Merci beaucoup, professeur Bachelet, d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Priorité santé sur RFI.
Nous parlons à présent de l'allaitement. Nous sommes en ligne avec Karima Peroni. Karima Peroni, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste spécialiste de la maternité et co-auteur de l'ouvrage « Mon allaitement comme je le veux ». Vous avez le choix de parler de l'allaitement. Vous avez fait le choix, pardon, de parler de l'allaitement dans votre livre. Dites-nous pourquoi.
Alors, tout d'abord, notre livre n'est pas un recueil sur l'allaitement, pro-allaitement, je l'entends par là. Ce n'est pas un énième guide, c'est vraiment on essaie d'expliquer que l'allaitement est un choix et que tout type d'allaitement est un allaitement. C'est-à-dire qu'un allaitement exclusif, comme un allaitement mixte, comme un allaitement court. Et ça, c'est important de le rappeler parce que les mamans se sentent souvent isolées quand elles sont dans cette période de vie juste après l'accouchement où elles peuvent être un peu vulnérables. Pour pas dire beaucoup, et elles sont un petit peu perdues. Donc déjà, on voulait rassurer les mamans sur ce point, et on pensait que c'était une façon aussi importante d'en parler. On en parle de façon éclairée, puisqu'on a beaucoup d'intervenants sur ce sujet, des intervenants professionnels, mais de façon aussi légère, puisqu'on parle aussi de mode, on parle de beauté, et on parle de sexualité à travers cet ouvrage, puisque l'allaitement recouvre aussi toutes ces thématiques.
Et justement, en parlant de l'ouvrage, au premier chapitre, vous abordez l'aspect naturel de l'allaitement, pas besoin de se préparer.
Oui, alors en fait c'est un petit peu, on tord le cou à des idées reçues, c'est ces phrases comme ça qu'on entend, l'allaitement c'est naturel, toutes les femmes peuvent allaiter facilement comme on l'imagine et comme on le fantasme à travers les films par exemple. Pour quelques femmes, non, ce n'est pas si naturel que ça. Alors dans la première partie, c'est vrai qu'on parle aussi de l'importance de la transmission. Dans les pays d'Afrique notamment, c'est vrai qu'il y a cette transmission entre mères, les tantes, en tout cas toutes les femmes qui entourent la jeune maman peuvent y apporter leur soutien. Mais dans les pays occidentaux comme la France, il y a un vrai vide à ce niveau-là et les mamans sont souvent seules et ne comprennent pas pourquoi elles ont autant de mal à allaiter et souvent elles arrêtent d'allaiter malheureusement. Et alors je dis malheureusement puisque les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé préconise des allaitements jusqu'à 6 mois pour la bonne santé de l'enfant.
Et justement, pourquoi est-il important d'allaiter ?
Alors, l'allaitement, en fait, comme on l'explique aussi, c'est vrai que c'est une façon naturelle de nourrir son bébé et c'est surtout la façon pour prévenir sa santé. C'est-à-dire que le lait est tellement riche, ce lait est tellement riche que l'on donne au bébé, qui permet en fait de construire ses anticorps. D'avoir un meilleur système immunitaire. Maintenant, je dis ça, je ne veux absolument pas culpabiliser les mamans qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas allaiter. Il n'y a aussi aucune étude qui prouve vraiment qu'un bébé non allaité est un bébé qui sera en moins bonne santé qu'un bébé allaité. C'est des recommandations qui sont mondiales. Et en fait, qui sont expliqués dans les pays où il y a des problèmes de malnutrition. Effectivement, l'allaitement par la mère, sachant que toutes les mamans, même si elles sont en période peut-être de famine, hein, pour les cas les plus extrêmes, ont quand même une réserve de lait. Et c'est là où le corps humain est juste extraordinaire.
Karima Peroni, que conseillez-vous à nos auditrices pour bien vivre l'allaitement ?
De lire cet ouvrage, peut-être. Pour bien vivre son allaitement, c'est d'être entouré vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant et on alerte aussi les santé, enfin on espère que cet ouvrage sera entendu jusque dans les autres instances parce qu'on pense que c'est vraiment un problème de société, qu'il y a aussi un rapport avec le corps qui est important et il y a un vrai problème, en tout cas en France, on est vraiment le vilain petit canard du monde, hein. On estime qu'en France, il y a vraiment un problème d'information et d'homogénéité dans la formation, dans les maternités notamment. Et donc du coup, c'est vrai qu'on espère que cet ouvrage va faire un petit peu bouger les lignes, en tout cas ouvrir un débat qui est important pour la femme, pour l'enfant, donc pour l'humanité. En
fait. Merci beaucoup Karima Peroni. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à mes invités, Bénédicte Charles, écoutante et adjointe de France Psoriasis. Le professeur Hervé Bachelet, également dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, a participé à cette émission. Merci infiniment. Merci à l'équipe de Priorité Santé, à Cétoussa Maquet, Ophélie Lassinte et à Victor Hull. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des pouvoirs du foie. Appelez-nous au 33 1 80 82 75 75. 33 1 80 82 75 75.
Sounois Assurance, qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.